Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du lundi 22 septembre 2025. On se retrouve avec un Bitcoin en quasi-recul de moins de 3%, 112 700 au moment où j'enregistre cette émission. Ether qui passe à 4150 en recul de 7,50, moins 8 pour XRP, moins 8 également pour Solana, moins 12 pour Dogecoin, moins 10 pour Cardano, 11 pour Chainlink, 12 pour Hyperliquid. Donc un début de semaine qui, sur ce top 20, recule à minima de moins 5 à moins 12%. On va voir comment, bien sûr, va s'ouvrir ce début de semaine, mais pour l'instant, eh bien, on n'arrive toujours pas à raccrocher le wagon. Et ce qui m'embête un petit peu, comme je vous en fais part depuis quelques semaines, c'est que malgré tout, on a un S&P 500 qui est très très haut au niveau des marchés américains et on n'a pas réussi à lui emboîter le pas pour le marché crypto. Et ça risque d'être assez problématique si on venait en effet à avoir une correction du côté du marché traditionnel. Quand on se projette un peu plus bas jusqu'au top 50, toujours Atom, Cosmos, Pudgy Penguins, Gate Token, Render, KuCoin qui passent légèrement pour les derniers d'entre eux sous les 2 milliards de capitalisation, donc toujours pas d'énormes inflows du côté des altcoins. Le Crypto Fear and Greed qui passe de neutral à pas très loin du début de la peur, et on a en effet cette cassure du canal parallèle ascendant sur lequel on était venu chercher quasi 118 000 dollars. On revient à la case départ puisqu'on vient de mécher sous les 112 000 et on a les open interest qui sont en train de se réveiller. Donc comme d'habitude, hein, ce sont des leviers qui se font liquider de bon lundi matin, mais voilà, c'est pas génial qu'on n'arrive pas à se construire à nouveau dans la borne supérieure du range. Et si Bitcoin est en train de se dégrader, vous pouvez l'observer d'ores et déjà du côté des alts, comme d'habitude, c'est amplifié dans ratio à minima x2. Martoon qui met en avant que du côté de la blockchain du Bitcoin, par contre, le hashrate vient de faire un nouveau point haut, donc on a un ATH à 1,1 trillion hecta-H ou hexa-H seconde. Vous m'en voudrez pas, mais au niveau de toutes ces nomenclatures entre ce qu'on pourrait dire en anglais, en français ou que c'est, voilà, il n'y a que les pros des mathématiques qui pourront me corriger dans les commentaires. Tesla qui est en bout de contraction, triangle rectangle ascendant, petit W hebdomadaire, une projection pour le Fibo 1.618 qui nous ferait passer de 425 dollars à autour de 650-660 dollars. Charlie Bilelio qui nous mettait le récapitulatif de toutes les clôtures du S&P et notamment le nombre de fois par année où on a fait un nouvel ATH. 2025, on est déjà sur 27 nouveaux ATH, c'est complètement fou. Et on voit que précédemment, il y a eu pas mal d'années de creux, notamment 74 à 79, les années 2000 à 2006, grosso modo, 2001 à 2006, et 2008 à 2012. Donc quand on a des vrais bear markets au niveau du marché traditionnel et du S&P américain, on voit que pendant quelques années, en effet, c'est la disette. Par contre, quand on a des progressions, eh bien, pendant 10 ans, 12 ans, 14 ans, parfois même un petit peu plus ici, on était de 89 à 2000, non, c'est ça, on est dans ces eaux-là. Et ensuite on a fait 2013 à 2022, eh bien on voit que ça accélère vraiment pied au plancher et c'est exactement ce que c'est en train de faire. Alors on a eu entre 2020 et 2025 quelque chose d'un peu extraordinaire dû à l'impression monétaire et au Covid et tout ce qui s'est passé entre 2020 et 2021, mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas pris un scénario du type 2000-2006 et a fortiori 2008-2012. Je ne prie pas bien sûr pour que ça arrive, hein, et encore moins en 2026, mais c'est quelque chose à garder en considération, bien entendu, pour la suite. On avait un excellent trade de Goku qui nous proposait la réflexion, la projection aussi de si demain, en nous réveillant, on voyait le Bitcoin qui était à zéro et que la cryptographie quantique avait été cassée. Voilà, c'est un sujet qui petit à petit à la fois divise et émule un peu les passions sur les réseaux sociaux, mais c'est un sujet qui sera un enjeu majeur pour demain, à ceci près que on peut upgrade, bien entendu, petit à petit, les différentes blockchain et la cryptographie pour le rendre quantum proof. Tino Bourse qui nous reparlait de la réforme du PEA avec le fameux plafond. Alors je ne peux que vous encourager à aller retrouver l'émission sur la chaîne où on avait eu une des personnes qui est à l'origine justement de cette proposition de loi et on en avait discuté pendant une petite heure. Donc un avantage qui sera assez extraordinaire puisque le but est de déplafonner finalement le PEA pour le rendre moins aussi attractif qu'une assurance vie, voire beaucoup plus par la suite. On a le prochain vrai gros sujet avec Brian Armstrong, le CEO de Coinbase, qui prévoit une super application crypto pour remplacer les banques. Et ça, je ne suis pas sûr que le terme « remplacer les banques » va faire plaisir, y compris du côté du pays de l'oncle Sam. Donc, il voudrait donc avoir des paiements, des cartes de crédit, des récompenses Bitcoin à 4%, tout en tirant parti des intégrations de DeFi. C'est clairement le futur de ce que pourrait devenir la crypto et toutes ces entreprises-là. Mais se substituer directement aux banques et le dire ouvertement Maintenant qu'ils ont le vent en poupe et que l'administration Trump est en train de pousser vraiment dans les voiles pour aller dans leur sens, après ce qu'on s'est traversé justement en 2022 sous une administration qui était complètement contre, je me pose la question de justement quand on sera plus sous l'administration Trump, si on va pas avoir un sale retour de bâton de ce côté-là. On avait la volatilité implicite qui est à un plus bas historique du côté de Bitcoin. Ça aussi, ça veut dire que tôt ou tard, là, entre maintenant et début octobre, on va avoir beaucoup plus de volatilité. Et c'est peut-être ce qui est déjà en train de se jouer ce matin, puisqu'on est quand même passé de 4000 milliards à 3830 en une heure de temps. Juste avant que j'enregistre l'émission, on était encore relativement haut par rapport à ça. Donc ça peut aller très vite, hein, le marché crypto. C'est pas pour rien qu'on vous dit régulièrement de prendre vos profits ou de sécuriser des gains. C'est que malheureusement, ça n'est que de l'expérience. Et certes, avec la volatilité et la capitalisation, elle qui augmente la cap et la volatilité qui diminue, on n'aura peut-être pas les amplitudes qu'on a eues par le passé. Mais quand le marché crypto a tendance à se retourner, il ne crie pas gare et on se retrouve vite avec un trou dans la raquette de moins de 30%. Le silver qui, petit à petit, avec Bob Lucas, se dirige droit devant mon capitaine vers son ATH qui est autour de 48$ dans ces eaux-là. Et ensuite, pourquoi pas la découverte de prix folle, comme on a pu le voir du côté du gold. La scène de margin call avec le vieux banquier qui dit que, en gros, ça existe depuis tous les temps, ce qui est en train de se passer au moment de cette fameuse crise et que dans tous les cas il n'y aura pas de grandes conséquences pour eux, que c'est toujours la même musique et que l'économie finit toujours par s'en relever. Donc beaucoup de cynisme, du pragmatisme aussi de comment ils voient les flux d'argent et comment ils pensent qu'il n'y aura jamais aucune conséquence. C'est exactement et malheureusement ce qu'on a vu en 2008 avec par la suite notamment l'administration Obama qui avait toutes les cartes en main pour justement venir mettre un grand coup d'arrêt à cette finance complètement délibérée et assez folle, pour ne pas dire un peu comme ils disent dans les termes anglais, les banksters, qui vraiment étaient une petite mafia. Et aujourd'hui, certes, il y a un peu plus de garde-fous qu'en 2008, mais voilà, c'est exactement la même musique, pour ne pas dire la même je dirais pas le mot. Donc c'est vrai que ça laisse se poser pas mal de questions, tout ce cynisme. Je pense que c'est le bon mot qu'il règne autour de la finance traditionnelle. Et d'un autre côté, est-ce qu'aujourd'hui on voit beaucoup mieux quand on regarde du côté de nous la crypto, j'ai plutôt la sensation qu'on est en train de reproduire pile poil et exactement les dérives qu'on peut observer en finance traditionnelle. On a Trofei de Cathie Wood avec ARK Innovation ETF, directement lié à ARK Invest. Depuis les points bas de 2022 autour de $30, on approche les $90 et la projection haute nous amènerait justement de ces 85 à $160. Alors là aussi, ça paraît un peu aventureux, mais ça démontre aussi qu'en ce moment, on a un appétit pour potentiellement le Russell, c'est-à-dire les low cap aux États-Unis. Bien que aujourd'hui, si les cryptos sont en train de se prendre une tôle, je ne sais pas trop ce que va donner l'ouverture justement des États-Unis, mais bon, pour l'instant, on se dit que avec potentiellement des baisses de taux multiples à venir d'ici la fin d'année, ça devrait plutôt pas mal se passer pour cet automne. À ceci près que Jérôme Powell, quand on écoute bien ce qu'il a dit, en effet, il était plutôt sur un pivot qui était un pivot nécessaire, mais un pivot de gestion de risque, comme il l'appelle lui-même. Et c'est peut-être ça qui, au niveau des termes, pourrait laisser planer le doute au niveau des marchés, et notamment le marché américain, sur les baisses de taux additionnelles qui viendront s'ajouter d'ici fin d'année 2025. Et si jamais on vient à avoir des chiffres du chômage ou des chiffres d'inflation qui ne sont pas bons dans les prochaines semaines, ils se réservent tout à fait le droit, et ils l'ont dit officiellement, de ne pas baisser les taux additionnellement. Donc le marché aujourd'hui prend pour acquis que oui, ça va se passer sur un certain chemin, mais on ne sait pas justement exactement quel en sera l'aboutissement, en tout cas pour l'instant. Les AirPods Pro 3 qui sont une très bonne mouture cette année, alors je ne suis toujours pas sponsorisé par Apple, j'aimerais bien, mais voilà, c'est des très bons écouteurs pour autour de 250€ pour ceux qui voudront tout simplement changer les leurs ou qui sont par exemple sur la toute première génération. Je pense que génération 1 à génération 3, ça peut tout à fait être intéressant. Un patrimoine de plus d'1 million d'euros avec un défaut de taille, on a analysé donc samedi dernier avec Valentin, un patrimoine à 1,1 million d'euros approximativement, avec plus de 300-350 000 euros en cash. On vous laisse bien entendu consulter cet épisode, c'était très intéressant. Le S&P 500 qui donc attachez votre ceinture, c'est le chiffre qui donne le vertige, à ajouter à son market cap en seulement 5 mois, donc depuis avril-mai, 16 000 milliards, c'est-à-dire 4 fois le crypto total, qui aujourd'hui aussi plus ou moins autour de 4 4 000 milliards, comme vous le savez. Nous, pour le marché crypto, dans le même laps de temps, on a imprimé, je crois, entre 1 400 et 1 600 milliards, c'est-à-dire on a un ratio de fois 10. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, finalement, on a de plus en plus de crypto-bros qui se tournent vers la bourse traditionnelle, puisque c'est là où l'activité se passe, où il y a des flux, où il y a énormément de capitaux. Et donc, ces dernières années, c'est ce qui a également poussé le S&P 500, comme depuis avril 2025, au moment de cette peur qui s'est emparée des marchés au moment de l'investiture de Trump et de ses tarifs de douane, on a eu la possibilité, en effet, pour ceux qui ont payé les points bas, eh bien, de récupérer un bon 30%, si ce n'est pas plus, désormais. Et c'est 16 000 milliards qui ont été rajoutés à ce fameux S&P 500. Alors, d'un côté, comme je le disais à l'instant, c'est là où se passe finalement l'action. Et d'un autre, je me pose la question de justement 2026. Est-ce qu'on arrivera un jour pour nous, aficionados du marché crypto, à nous décorréler finalement d'un S&P 500 sur lequel récemment on n'a pas réussi à se corréler à la hausse. Et malheureusement, la décorrélation à la baisse, elle est très très rare. C'est dans d'infimes proportions quand ça arrive. Et quand le S&P 500 se prend un énorme shoot, le marché crypto, vous vous doutez bien, s'en prend un encore plus grand. Avec Journal du Coin, les développeurs d'Ethereum ont fixé au 3 décembre le déploiement de la mise à jour Fusaka, qui précédera une série de forks destinés à plus que doubler la capacité des blobs et à renforcer la scalabilité du réseau. Donc Ethereum, même si on a eu un cycle à blanc un peu là, sur ces 2-3 dernières années, on pourrait très bien le cycle d'après vraiment venir récupérer un peu ce retard qu'on a eu d'un point de vue spéculatif. Ça reste une idée comme ça, mais je me dis que petit à petit, c'est quelque chose qui pourrait faire sens, et notamment quand on voit que enfin ils ont trouvé la route, les flux du côté des ETF Ether, chose qu'on n'avait pas vue depuis quasiment le début de leur introduction comparativement à Bitcoin. Il y a 3 jours également, on avait eu juste avant le week-end le Nikkei qui avait lâché 2,5%, donc on a eu un week-end plutôt flat, mais c'est peut-être aussi ce qui inquiète un petit peu du côté du Japon, le Russell qui vient faire un nouveau point haut. Donc typiquement, on se dit que si les low cap des États-Unis font un nouveau point haut, pourquoi on n'a pas franchi notre nouveau point haut du côté des altcoins? On a vraiment l'impression en ce moment qu'on joue avec nos nerfs. Les semi-conducteurs et tout ce qui va bien avec TSMC, Nvidia et Intel qui sont en train de faire, je pense que l'écran parle de lui-même, de très jolies choses. Après, rentrer maintenant comme d'habitude, voilà, ça va être assez compliqué, mis à part si on se projette sur 10 ou 20 ans et qu'on se dit que l'IA et les Nvidia et consorts vont absolument tout absorber sur leur passage. Joseph Lubin de Consensus aurait confirmé que le token MetaMask arriverait très prochainement. Ça n'a pas été confirmé ou infirmé des principaux intéressés. Le plus drôle, comme je disais également il y a 72 heures, c'est que si le cycle se termine maintenant à l'automne 2025, on aura fait pile poil le jeu du cycle de 4 ans, après avoir pensé que cette fois serait différente. Et je pense que c'est un dicton les plus, quelque part, néfastes que pourrait se raconter l'investisseur avisé, de se dire, bon, cette fois, c'est bon, super cycle sur Bitcoin, on n'aura plus jamais de moins 30, moins 40, moins 50, si c'est pas du moins 60 sur Bitcoin, puisqu'au cycle précédent c'était encore moins 77, rappelons-le. Donc déjà sur ce cycle, si on se prend que un moins 50, ça sera déjà vraiment plutôt pas mal. Et ensuite on en vient aux petites infos d'il y a encore 4 jours, donc avec le BNB qui a franchi les 1 000 $, etc. Donc là on est revenu aux infos précédentes, et donc on part sur l'analyse technique avec le crypto total aujourd'hui à 3830. Le souci, c'est que dès lors qu'on s'approche des 4000, eh bien pour l'instant ça bloque. Alors on a certes une congestion de prix, c'est toujours pas la fin du monde, mais il ne faudra pas sortir de cette petite box comprise entre 3650 et 4000 milliards à la baisse, sous peine d'avoir une accélération qui dans un premier temps nous amène à 4500 et ensuite au point de juin 2025 autour de 3000 milliards. Donc vraiment ça piquerait de repasser de 4000 à 3000. Le RSI, on voit qu'il fait un peu comme une balle qui perd petit à petit sa vélocité, donc il rebondit sur la trame d'ici des 67-68 et c'est clairement pas ragoûtant à court terme. Et le MACD, pareil, il nous dit eh bien faiblesse, il risque de croiser ici relativement haut, et quasi toutes les dernières fois où il a croisé comme ça, eh bien derrière on est rentré sur une correction un peu plus marquée. Donc J'ai toujours cet espoir, comme vous tous, bien entendu, que l'automne se passe bien, tout en me disant que voilà, on a cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, et ça m'embête. Le Crypto Total 2, c'est exactement pareil. On se dit la semaine dernière, ça y est, on est sur le pas de tir, on va passer que nenni. Donc, de nouveau, punition. De nouveau, le RSI nous fait exactement pareil. Et contrairement à Bitcoin, on est même un peu en retard. On n'a pas encore ce croisement ou ce début de croisement qui est en train de se faire. Donc, on avait vraiment bon espoir ici de passer. Et à chaque fois, sur ce cycle depuis 2-3 ans où on a l'impression que les alts vont se mettre à faire quelque chose, derrière on se fait complètement bousiller. C'est pareil du côté du Crypto Total 3, on a quelque chose d'assez propre hein, finalement, mais ça ne veut toujours pas passer autour des fameux 1170 milliards. Et c'est vraiment quasiment à l'euro près, hein. À chaque fois qu'on vient pile poil sur des zones, on a l'impression maintenant que les professionnels ont la main mise, que littéralement ils sont en train de jouer avec nos... Je dirais pas le mot. Du coup, on a en plus la dominance stablecoin qui est en train de nous faire un W ici, juste sous la zone de résistance. Là aussi, vous en faites ce que vous voulez, mais c'est le chart inverse de ce qu'on vient de voir du côté des crypto-totaux, avec un RSI qui est orienté bull et un MACD qui va croiser bull également. Évidemment, dès que le marché corrige, les participants se réfugient soit en stablecoin, soit sur Bitcoin, 59% ce matin de dominance, tandis qu'au niveau du cours, 113 000, c'est un peu la zone de démarrage. Autour de 110, 111, on l'avait vu la dernière fois, l'importance on-chain de cette zone. Si jamais ça break, c'est une accélération jusqu'à 107, 108, voire autour de 104, 105, et ensuite on a des points beaucoup plus bas, hein, autour de 98, 99. Est-ce qu'on n'a pas désormais besoin de revisiter et de se faire peur autour ou légèrement en dessous des 100 000 pour justement récupérer un petit peu d'énergie et repartir en octobre? En tout cas, cette dernière semaine de septembre ne s'annonce pas sous de très bonnes augures au vu de l'ouverture de ce début de semaine. Ether, c'est pareil. Pour l'instant, contraction de prix qui nous ramène à nouveau autour de 4200. On a même méché légèrement en dessous. Le MACD qui va croiser bear très haut. Le RSI qui est sur support pour l'instant autour de 60 en hebdo. Si jamais on lâche, bien entendu, les 4000-4100, c'est l'appel d'air et Dieu seul sait jusqu'où on ira. On a les 3300-3400 et on a ensuite les 2009. On va se mettre un petit fibo de l'ensemble du dernier mouvement pour voir que le 0,30 2 s'arrête à 3006, le 4100, bah, c'est la toute première zone 0,236, 0,5 à 3175, 0,618 qui est quasi aligné avec le gros support des 2008. Donc ce qui m'intéresserait pour plus tard, bien entendu, pour commencer à recharger lors d'un futur bear market, ça sera toute cette zone autour de 2800$ pour Ether. On passe vite fait sur les indices et commodités, et comme c'est lundi que les États-Unis n'ont pas encore réouvert, bien entendu, on ne pourra pas en dire plus en l'état. On a le CAC 40 ce matin qui est plus ou moins à l'équilibre, le DXY qui est en train de faire deux énormes mèches sur les 96-28, on a rebondi à 97-68, c'est très certainement ce qui est en train de se matérialiser ici, le bottom du dollar. On a le MACD qui est très bas avec des histogrammes qui sont en train petit à petit très doucement de s'empiler positivement, le RSI qui est flat, donc clairement entre fin d'année 2025 début 2026, on risque d'avoir un rebond du dollar. On aura par la suite autour de l'automne 2026, je pense, l'apogée de potentiellement cette volatilité qu'il y aura eu en 2026 pour les mid-terms de Trump. Donc ça va être une année où de nouveau, on ne va pas être au bout de nos surprises et où il y aura beaucoup, beaucoup de mouvements. Donc préparez-vous aussi à ça, pour ceux notamment qui veulent prendre des profits maintenant et qui veulent digérer peut-être au moins 6 mois, 9 mois comme ça, un peu plus tranquillement cette année 2026, en prenant en considération que si vous arrivez à aller chercher du rendement à la fois un peu sur le marché action, à la fois un peu sur vos stablecoins du côté de la crypto, etc., c'est une année 2026 qui vous permettra justement d'y voir un petit peu plus clair. Du coup, le gold récupère un petit peu de nouveau de jus à 3705 ce matin, pareil, ATH sur ATH, verticalité, impossible de rentrer dans l'immédiat, il faut attendre que tout ça s'essouffle. Et finalement, quand on observe même au niveau des taux, on a de très légers rebonds, que ça soit sur le 5 ans, le 30 ans, le 10 ans, le 20 ans. Alors bon, c'est quand même en train légèrement de se poser, mais on a toujours pas un énorme crash du côté des taux longs. Et ça, c'est problématique. Pourquoi ? Puisque le marché, d'un côté, joue la partition sur les actions qu'on va avoir de multiples baisses de taux, tandis que du côté des taux et des bonds, c'est-à-dire le marché obligataire, pour l'instant, on n'y croit pas, voire même quand on regarde les oscillateurs, on a l'impression que ça va se mettre à rebondir. C'est complètement fou. Au niveau des futurs américains, c'est pas la débandade de 6712 pour le S&P 500 et 24828 pour le Nasdaq à moins 0,15. Donc il faudra bien entendu avoir cette journée aujourd'hui, voire demain, pour voir un petit peu où nous avançons. Ceci étant dit, pour le S&P 500, c'est exactement ce que je vous disais à l'instant, on est à 70, c'est-à-dire on arrive à la zone de surachat pour le RSI. On a le MACD qui est très très haut. La dernière fois qu'on était aussi haut, on voit que c'est dans ces zones-là, autour de 200-205 de MACD au niveau de sa propre échelle en bas, ou en hebdomadaire, ça commence à coincer. Donc on a deux oscillateurs qui nous disent surchauffe. On a un cours qui nous a fait un V-bottom des enfers, c'est rarissime de voir ça, de plus 38% depuis le point bas. On est censé imprimer pour le S&P 8 annuel, donc bon, on a fait plus de 4 fois l'annuel en seulement 5 mois. Le tout en rajoutant au market cap, principalement lié à la tech, 16 000 milliards. Donc vous en faites ce que vous voulez aujourd'hui, mais le jour où ça va corriger, bien entendu, eh bien voilà, ça va emporter le reste du marché avec lui. Et un simple retour à la moyenne mobile 20, c'est 6220, et on a un support également autour de 6150. Donc ça ferait une baisse par rapport au cours sur lequel nous travaillons aujourd'hui, de moins 6, moins 7, à environ moins 8%. Ce qui est tout à fait de l'ordre du possible et qui va très certainement arriver entre fin d'année 2025 et mi-2026 maximum, voire automne 2026 si on avait un cycle qui continuait vraiment d'abonder sur le premier trimestre 2026. J'ai quand même un doute là-dessus, mais voilà, admettons qu'au plus tard du plus tard, on vienne faire un moins 5 à moins 10 d'ici l'automne. Le scénario un peu plus catastrophe, bien entendu. Premier temps, on a la moyenne mobile 50 sous les 6000 points autour de moins 10%, la moyenne mobile 100 autour de 5500 points, et ensuite on descend beaucoup, beaucoup plus bas, puisque 5100 nous amène à moins 23%, et aujourd'hui la moyenne mobile 200 est à moins 27%. Donc tout ce qu'on grind comme ça avec des V-bottom, avec ce marché américain sous dopamine, on en profite, bien entendu, on est tous très contents depuis 2020, mais c'est ce qui fait que aussi quand on se prend des retours de manivelle, ils sont d'autant plus importants que justement on peut l'observer depuis environ 5 ans avec des positifs qui sont très très importants et des négatifs qui le sont tout autant, puisque 2022, rappelons-le, on avait également déroulé moins 28%. Donc c'est tout à fait de l'ordre du possible, bien entendu, et ce bear market entre guillemets qui avait quand même duré de décembre 2021 à son extraction janvier 2024, ça n'était pas rien, a été cancel un peu par le premier pivot de la Fed qui donnait ce ton finalement au marché que voilà, on allait avoir une détente, etc. On est monté très haut très vite, on a eu ici l'introduction de Trump derrière qui a permis justement de purger tout ça, où on est passé de 6150 au support des 4800 long terme, et aujourd'hui ben, il y a pas mal de personnes de la TradFi qui défendent aussi ce scénario de se dire, eh bien pourquoi après 5 ans où l'on a fait en effet une volatilité comme ça à 15, 20, 30, 40% annualisé, pourquoi on ne va pas revenir à quelque chose dans un range, soit un range resserré sur une demi-borne haute ici, entre pourquoi pas les 5500 points et les quasi 7000 qu'on va très certainement venir chercher. Peut-être ça peut aussi bloquer à 6700, hein, comme d'habitude je vous donne des zones, ou bien on aura un range encore plus grand entre cette fameuse zone de 6800, la moyenne mobile 200, autour de 4008, et pendant 2-3 ans on va faire le yo-yo comme ça, jusqu'à retrouver par la suite un marché qui reviendra chercher de nouveaux points hauts. Donc ça, c'est quelque chose auquel ne sont pas préparés psychologiquement les nouveaux investisseurs de 2020, et c'est quelque chose qu'anticipe très largement les banques d'investissement, les banques d'affaires, les banques privées, et qui pourrait aussi très largement coller à ce scénario de stagflation, inflation collante et ralentissement économique, sans parler de récession. Le but, c'est pas voilà, d'affoler tout le monde avec des grands termes, mais une économie américaine qui prospérerait un petit peu moins que ce qu'elle a fait sur les 5 dernières années, avec peut-être un relais de croissance justement du côté des marchés émergents de l'Asie, de l'Inde, etc. Et on le voit déjà depuis quelques trimestres, on a ce passage de relais, quand bien même la tech US a très largement porté le Nasdaq et le S&P 500 du côté des marchés émergents. Je vous souhaite une excellente journée, on se retrouve prochainement, et continuez à la fois d'être prudent et, pour ceux qui ont des doutes sur cette fin d'année, de quand même penser à vous sécuriser. Très bonne journée et à plus tard. Ciao, ciao.